crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous observons une peinture réalisée entre 1523 et 1524 par le Titien pour le Camerino d'Alfonso d'Este, grand mécène de son temps. C'est une huile sur toile d'1m75 par 1m93, donc une grande peinture, conservée au musée du Prado à Madrid et intitulée « La Bacchanale des Andriens ». Son programme iconographique, ce qu'il représente, relève d'une source écrite antique. La description d'une peinture dans la galerie de tableaux imaginée par Philostrate l'Ancien vers le 3e siècle après Jésus-Christ. Écoutons la description de Philostrate.
Les Andriens enivrés par le fleuve de vin qui traverse leur île. Tel est le sujet de cette peinture. C'est Dionysos qui, pour les Andriens, a fait jaillir du sein de la terre ce véritable fleuve. Petit en comparaison de nos rivières, divin et considérable, si vous pensez qu'il y roule des flots de vin. Et voilà sans doute ce que chantent les Andriens, avec leurs femmes et leurs enfants, tous couronnés de lierre et de smilax, les uns dansant, les autres couchés sur l'une et l'autre rive. J'imagine les entendre. L'Achelos, disent-ils, produit des roseaux. Le Péné arrose des vallées verdoyantes. Les fleurs croissent sur les bords du Pactole. Mais ce fleuve enrichit les hommes, les rend puissants sur la place publique, riches et serviables envers leurs amis, leur donne la beauté, et fussent-ils des nains, une taille de 4 coudées. Car tous ces avantages, celui qui s'est enivré ici peut les réunir, s'emparer en imagination. Il chante aussi, sans doute, que seul d'entre les fleuves, celui-ci n'est point franchi par les troupeaux et les chevaux, que versé des mains même de Dionysos, il est bu dans toute sa pureté, ne coulant que pour les hommes. Imagine-toi entendre cet hymne, et aussi le balbutiement de quelques chanteurs avinés. Voici maintenant ce qui se voit couché sur un lit de grappes de raisin, le teint empourpré et le visage un peu bouffi. Le fleuve répand ses eaux. Des tirs sont poussés près de lui, comme les roseaux dans les fleuves ordinaires. Au moment où il quitte la terre et les banquets dont il est témoin, vers l'embouchure, les tritons viennent à sa rencontre, et puisant le vin dans leur conque, le boivent ou le lancent dans les airs en soufflant. Quelques-uns même d'entre eux sont ivres et se mettent à danser. Dionysos se rend par mer vers Andros et ses festins. Déjà le navire est entré dans le port, amenant la troupe confuse des satyres, des bacchantes, des silènes. Il porte aussi Elorire et Comos, les dieux les plus gais, les meilleurs compagnons de l'ivresse, les plus dignes d'assister le dieu en humeur de vendange. Philostrate de Lemnos, 3e siècle après Jésus-Christ.
Un paysage donc, celui d'une île des Cyclades, consacrée à Dionysos, l'île d'Andros, et évidemment réputée pour ses sources, qui, situées sous son temple, se seraient changées en vin. Un paysage à flanc de coteau, proche de la mer, que l'on devine dans le point de fuite du tableau. 5 arbres à gauche, de variétés diverses, dont un porte sur son tronc une vigne grimpante et ses grappes. Ils prennent toute la hauteur de la peinture. Un autre, au feuillage plus clair, plus à droite, élève le regard et se découpe sur les cumulus du ciel. Le tableau est envahi par 17 personnages. Certains vêtus d'étoffes libres et chatoyantes dansent, se charment, conversent ou s'assoupissent. L'un d'entre eux, par exemple, élève une carafe de vin vers le ciel. D'autres, nus ceux-là, boivent, transportent ou versent le vin et l'eau, et au loin, deux bergers et un chien. Seul sur un méplat en haut de la colline, un vieil homme dort, pressant une grappe dans sa main. De nombreux détails ajoutent au mystère de l'œuvre. Un ruisseau de vin autour duquel batifolent les personnages traverse la composition. Un enfant pisse dans le ruisseau sans le troubler. La gorge d'une femme laisse paraître un bouquet de violettes et un message plié dans son corsage. Une partition gît au sol entre deux amis. Une coupe est renversée. Mais surtout, une nymphe à droite en bas du tableau, somptueusement nue, adossée à un grand vase, la tête appuyée sur son coude relevé, dort. Elle est si étrangement ramenée dans la scène, étrangère, lointaine, et comme rapportée d'un autre tableau, qu'on a presque l'impression qu'elle rêve ce que nous voyons, et qu'elle est la source d'une exquise et voluptueuse songerie.
Que ne dévoile point l'ivresse ? Elle révèle les secrets. Elle réalise les espérances. Elle traîne le lâche au combat. Elle soulève le fardeau des inquiétudes. Elle enseigne les arts. Quel est celui que les coupes fécondes n'ont pas fait éloquent? Qui ne délivre-t-elle pas des chaînes de la pauvreté? Lettre d'Horace, 1er siècle avant Jésus-Christ.
On entendait à l'instant une lettre du poète latin Horace, datant du 1er siècle avant Jésus-Christ, mais pour parler plus longuement du Titien et de ce thème de l'ivresse, et particulièrement de ce tableau, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Philippe Morel. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Philippe Morel, vous êtes un exceptionnel regardeur et j'ai lu ce livre formidable qui vient de sortir, Renaissance dionysiaque, inspiration bachique, imaginaire du vin et de la vigne dans l'art européen, entre 1430 et 1630, rien que le titre nous met en appétit. Et je peux vous dire que le lisant, j'ai été passionné de bout en bout. Vous êtes professeur de l'art à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où vous dirigez le Centre d'Histoire de l'Art de la Renaissance. Vous êtes membre de l'Institut Universitaire de France et vous avez écrit de nombreux livres. Et je relève quelques-uns des titres pour faire savourer, saliver même l'auditeur. Le Parnasse astrologique, une étude iconologique des décors peints pour le cardinal Ferdinand de Médicis. Ça, c'était en 91. Le fameux livre qui vous a rendu célèbre dans notre univers, qui était Les Grotesques, les figures de l'imaginaire dans la peinture italienne de la fin de la Renaissance. J'ai sur mon bureau, et je ne l'ai pas lu encore, mais j'ai hâte de le lire, Mélissa. Magie, astres et démons dans l'art italien de la Renaissance, chez Hazan, en 2008, et le livre dont nous parlions, La Renaissance dionysiaque. Et à chaque fois, des sujets très particuliers, des sujets un petit peu marginaux, qui semblent attirer votre curiosité.
Cet ouvrage sur la Renaissance dionysiaque se distingue des précédents dans la mesure où, peut-être pour la première fois, j'ai voulu embrasser de nombreux siècles d'histoire, non seulement d'histoire de l'art, mais d'histoire de la culture, car la thématique dionysiaque, naturellement, m'a amené à remonter jusqu'aux grands auteurs de l'Antiquité, jusqu'à Platon, jusqu'à Euripide, et à étudier le destin de ce qu'on peut appeler la tradition dionysiaque à travers les siècles, y compris à des moments où on aurait pu croire qu'elle avait totalement disparu, je pense au Moyen-Âge. Et jusqu'à la Renaissance, donc, où là, il y a un véritable revival, un retour, une renaissance précisément.
Mais j'ai l'impression, Philippe Morel, que le Bacchus ou le Dionysos dont vous nous parlez n'est pas exactement celui que l'on découvre chez Nietzsche, chez Bataille, celui qui a fait la fortune du XXe siècle, qui est un Dionysos très dramatique, comme ça, relu, mais plutôt un Dionysos heureux.
Absolument, absolument. On peut dire que Dionysos, qui est un personnage avec de multiples facettes, de multiples fonctions, qui évolue en fonction des siècles et peut-être même des lieux, entre la Grèce et Rome, par exemple, Dionysos s'est prêté à des approches assez variées, voire assez contrastées entre les époques. Et on peut dire qu'à partir de l'époque romantique, à partir du XIXe siècle, et notamment de la culture germanique et particulièrement Nietzsche, bien évidemment, c'est un Dionysos inquiétant, un Dionysos tragique qui s'impose, alors qu'au cours des siècles précédents, c'est une facette ou des facettes beaucoup plus positives, beaucoup plus réjouissantes, beaucoup plus liées à la vie, à l'amour et à la Renaissance qui l'emporte.
Alors c'est une Renaissance heureuse que vous évoquez dans le livre, en fait, qui donne la sensation d'être une Renaissance heureuse, mais en même temps, elle est entre la peste, les guerres, les luttes avec l'Espagne, avec la France, avec l'Italie. C'est une période de troubles incroyable, et pourtant, il y a une sorte de bonheur comme ça qui surgit, et du tableau et de votre analyse.
Bien, on pourrait dire que déjà les auteurs grecs reconnaissaient à Dionysos non seulement une fonction d'antidote, mais un véritable remède contre la mélancolie, remède contre la vieillesse, remède contre les peines d'amour et bien d'autres choses. Eh bien, dans une large mesure, au XVIe siècle, et notamment avec le cas qui va nous occuper aujourd'hui, un tableau commandé par le duc de Ferrare, Alfonso Primo d'Este, c'était vraiment un remède contre tous les problèmes auxquels il était confronté, des problèmes qui étaient des problèmes politiques, des problèmes de chef d'État et de préservation de son duché face aux ambitions du Saint-Siège, c'est-à-dire des papes de l'époque.
Alors c'est un personnage très particulier, il a une sœur célèbre qui elle aussi est un grand amateur d'art, il est l'époux d'un autre personnage célèbre, qui est-ce ?
Ah, c'est un personnage tout à fait fascinant qui était un grand amateur d'art, mais qui s'est fait d'abord une réputation en tant qu'homme de guerre, spécialiste de l'artillerie, souvent sur les champs de bataille. Mais il est vrai que son hérédité est très présente. Il est donc héritier des marquis puis ducs de Ferrare, une tradition très tournée vers le mécénat artistique, mais également mécénat littéraire et théâtral. Sa sœur donc est la célèbre Isabelle d'Este, qui devient marquise de Mantoue, la ville de Mantoue étant à quelques dizaines de kilomètres ou une centaine de kilomètres de la ville de Ferrare. Et il épouse la encore plus célèbre, peut-être, mais pour des raisons parfois plus délicates à évoquer, la célèbre Lucrezia Borgia, qui s'est avérée une magnifique duchesse de Ferrare, un grand mécène qui s'est entouré des plus grands hommes de lettres de son temps, et le plus célèbre d'entre eux étant Ludovico Ariosto, autrement dit l'Arioste, qui est le plus grand homme de lettres italien du XVIe siècle, probablement, avec le Tasse.
L'auteur d'un Orlando Furioso, qui est le grand œuvre de sa vie, au fond, mais qui a modifié complètement la relation et à la littérature et même des artistes à ce texte.
Absolument, c'est un véritable best-seller que le Roland Furieux, l'Orlando Furioso, et c'est un ouvrage qui, pour une part, est une célébration à travers un langage totalement, bien évidemment, romanesque, une célébration de la dynastie des Estes et tout particulièrement d'Alphonse d'Este et de son frère le cardinal d'Este.
Alors, ce qui nous occupe, c'est un tableau extraordinaire du Titien, mais peut-être pour essayer de resituer ce tableau dans le contexte dans lequel il va être inventé, il y a le désir d'Alfonso d'Este de créer, et pourquoi d'ailleurs, vous allez nous le dire peut-être, un camerino. Qu'est-ce que c'est qu'un camerino ?
Alors un camerino, c'est disons un petit cabinet où on met des œuvres d'art, un lieu très précieux, un lieu très réservé. D'après les documents qui sont à nos dispositions, il semble qu'il ait été très peu vu du temps d'Alfonso Primo, autrement dit du commanditaire. Ce n'est que par la suite que les artistes y auront peut-être plus facilement accès. Mais pendant tout le XVIe siècle, ça reste quand même un endroit assez réservé.
C'est par rivalité avec sa sœur qu'il veut
faire
ça. Alors
c'est à la fois par tradition et peut-être un peu par rivalité tradition, parce que ses ancêtres ont fait également décorer des camerini ou des studioli par les peintres les plus célèbres de leur époque, ceci dès la première moitié du XVe siècle. Mais il est vrai que juste avant cette entreprise du camerino de peinture d'Alfonso Primo d'Este, Isabelle d'Este, à Mantoue, dans le palais, ou plus précisément dans le château Castel San Giorgio de Mantoue, se fait réaliser ce célèbre studiolo avec des peintures sublimes de Mantegna, Pérugin et quelques autres, et avec une inflexion très, très savante, très allégorique, très moralisante aussi, que va totalement réorienter son frère dans son propre
camerino. Isabelle d'Este avait choisi quoi, comme thème les vices et les vertus,
Les vices et les vertus, c'est une réflexion, mais très, très sophistiquée sur l'amour. d'amour et d'un point de vue, en effet, extrêmement vertueux.
Alors, quand on parle d'amour, on parle toujours, je pense, d'un amour néoplatonicien, pas platonicien, mais néoplatonicien, c'est-à-dire qu'il y a des contenus symboliques et mystiques très particuliers, non ?
C'est le cas d'Isabelle d'Este, alors que, comme on verra peut-être, avec le Camerino d'Alfonso Primo d'Este, c'est une approche non plus néoplatonicienne, mais véritablement épicurienne, qui se développe en cet endroit.
Alors, j'aimerais comprendre comment ça va se passer. Cet extraordinaire prince de la Renaissance va créer un espace mental qui va chercher à exprimer une totalité, ou en tout cas un concept, on peut dire, on dirait aujourd'hui un concept. Et pour ça, il va probablement chercher à établir un programme qu'il va confier à des grands artistes. C'est comme ça que ça se passe ?
Absolument, mais ceci avec l'aide d'un humaniste qui était auprès de lui, qui était par ailleurs très proche de sa sœur, en fait, qui voyageait régulièrement entre Mantoue et Ferrare, qui s'appelle Mario Equicola, un grand savant qui est l'auteur à la même époque d'un grand traité sur l'amour. Et il demande donc à Mario Equicola d'élaborer une sorte de trame, on va appeler ça comme ça, une trame programmatique pour son Camerino, où Equicola définit 5 ou 6 sujets, mais on ne sait pas précisément lesquels. Il y a une simple lettre où il explique à Isabelle d'Este qu'il ne peut pas revenir à Mantoue parce qu'il est en train de travailler pour son frère sur cette trame programmatique. Et ces sujets, comme il va apparaître, se rapportent tous au thème du vin, de Bacchus, de l'amour et également de la fertilité.
Est-ce que c'est des sujets inconvenants pour l'époque ?
Non, mais il faut quand même noter que le premier tableau qui a été commandé a pour sujet, qui est commandé un artiste qui à l'époque est très vieux, il va mourir 2 ou 3 ans plus tard, c'est le vieux Giovanni Bellini, donc l'artiste vénitien le plus célèbre du moment, car
il faut dire que c'est l'artiste le plus célèbre du monde à ce moment-là, quasiment, en tout cas pour l'Italie.
Absolument.
Et il est le peintre officiel de Venise, c'est le grand peintre.
Absolument. Vénitien. Mais le duc de Ferrare, Alfonso Primo, va s'attacher à solliciter les plus grands artistes de son époque. Il y aura bien évidemment donc Bellini, il y aura après Raphaël, il y aura Fra Bartolomeo, qui est le plus grand artiste florentin de l'époque. Il fait appel également à l'artiste local Ferrare, le plus connu, qui est Dosso Dossi, et il s'adressera après, dans un second temps, à Titien, qui est encore assez jeune au moment où il prend contact avec lui.
Alors, le programme s'écrit, on va voir tout à l'heure ce que ça va donner, et en particulier sur ce tableau de Titien qui est extrêmement important. Et est-ce que le programme est une démonstration ? Est-ce que c'est un acte philosophique ?
On peut dire qu'il y a une inflexion philosophique, mais ce n'est pas une démonstration. C'est pourquoi, si il faut vraiment s'attacher au terme que l'on emploie, le mot programme n'est pas le plus adapté. Il faudrait utiliser le mot invention, c'est-à-dire c'est une invention avec, comme je le disais, une sorte de trame programmatique qui s'ouvre à une multitude de variations et de commentaires. Ça n'a rien de absolument contraignant. Il ne faut pas imaginer que les artistes ont, en quelque sorte, illustré des directives extrêmement précises et coercitive. Alors que pour Isabelle d'Este, ce fut le cas. Et Isabelle d'Este s'est notamment adressée à Giovanni Bellini et ses directives étaient tellement étroites pour l'invention de Bellini que celui-ci refusa.
Alors Giovanni Bellini va réaliser le premier, l'introduction en quelque sorte.
Absolument, et on revient au thème du caractère éventuellement osé ou voire obscène de certaines de ces images. Il n'y a rien de franchement obscène dans ces tableaux, mais il n'en demeure pas moins que le tableau de Bellini est consacré à l'histoire de Priape et Lotis, qui est une histoire extrêmement drôle d'une certaine façon, comique ou qui raconte...
C'est presque une comédie.
C'est une comédie, surtout dans la manière selon laquelle Bellini l'a interprété, ou Priape, donc, qui est un dieu ityphalique, c'est-à-dire toujours en érection, fils de Bacchus et de Vénus, veut violer une nymphe pendant son sommeil. Il est surpris par un âne qui se met à braire et qui réveille toute la compagnie, et tous les dieux le contemplent prêt à aborder la jeune nymphe et tous de rire, et la nymphe bien évidemment s'enfuit. Elle se trouve un peu ridiculisée en cette occasion.
Alors c'est un tableau qui va être le premier de ce groupe de 5 tableaux dont vous parliez tout à l'heure. 5, n'est-ce pas ? Je ne me trompe pas.
5, enfin il y en avait 6, mais c'est une question un peu délicate. Mais finalement, il n'y en aura que 5 accrochés au mur.
Finalement, il n'y en aura que 5. Et donc, ce premier tableau va introduire bientôt notre sujet qui, je le rappelle à nos auditeurs, pour ne pas les perdre, nous allons parler dans quelques instants du fameux tableau de Titien, Les Andriens, qui est une bacchanale très particulière. Et nous sommes toujours en train d'examiner ce Camerino Figaro-Figarino d'Alphonse Ier. Et nous allons écouter auparavant, avant d'aller un peu plus loin vers le Titien, une chanson composée par Adrien Villert. C'est vous qui l'avez demandé, Philippe, et vous nous direz pourquoi. Ça a été Adrien Villert, c'est un compositeur de la fin du XVe siècle, début du XVIe, et ça s'intitule de façon allègre « Jouissance vous donnerait ». Nous sommes toujours avec Philippe Morel, nous allons examiner un tableau de Titien, les Andriens, et nous avons parlé de ce fameux Camerino d'Alphonse d'Est, qui se trouvait à Ferrare, et à propos duquel vous aviez choisi, Philippe, d'écouter Adrien Villart. Pourquoi ?
Alors Adrien Villart, parce que, en fait, dans la partie inférieure du tableau de Titien qui nous intéresse, il y a une partition musicale qui est parfaitement lisible, même si elle est tournée vers les personnages et non pas vers le spectateur du tableau. Et cette partition a été identifiée par les spécialistes. On a reconnu un texte musical d'Adrien Villert, qui est un musicien franco-flamand, qui était actif à la cour de Ferrare dans les années 1520, donc au moment où Titien réalise ce tableau qui est de 1523. Et le texte de cette partition est « Qui boit et ne reboit, ne sait que boire soi ». Alors nous verrons par la suite que c'est véritablement un détail absolument emblématique qui résume une des facettes du tableau. Et il y en a un autre dont nous parlerons peut-être par la suite, qui est la carafe présentée par l'un des danseurs qui sert en quelque sorte de réponse à cette déclaration d'usage excessif du vin.
Ce qui est étrange, c'est que vous nous parlez d'une chanson qui donne la sensation d'être une chanson à boire, une chanson presque triviale, associée à une œuvre d'une culture incroyablement raffinée. Qu'est-ce que c'est que ces deux cultures qui se rencontrent ?
Alors, c'est une chanson à boire d'une certaine manière, mais c'est un canon. Donc, c'est une forme quand même, pour utiliser les termes des spécialistes, une forme polyphonique, contrapuntique, extrêmement élaborée, qui implique en fait une polyphonie, donc plusieurs interprètes qui chantent la même ligne mélodique, mais de façon décalée et superposée. Alors il faut imaginer « qui boit ne reboit », donc la phrase est répétée « qui boit ne reboit », une seconde voix dit aussitôt après « qui boit et ne reboit », etc. Et donc il y a un phénomène de répétition qui s'accorde parfaitement avec le contenu des paroles, c'est-à-dire il s'agit de boire et de reboire de manière quasiment illimitée, donc ça renvoie à un rapport au vin qui est l'un des aspects de cette composition.
Est-ce que dans le rapport au vin dont vous parlez, pas le rapport au vin, mais l'idée de la répétition n'est pas aussi liée à la transe ? Est-ce que la répétition n'est pas la scansion comme ça répétée, obsédante, n'est pas quelque chose qui nous met dans la transe d'une certaine façon ?
On pourrait peut-être l'aborder comme ça, dans un contexte proprement dionysiaque de l'Antiquité et du dithyrambe. Mais là, c'est véritablement, à mon avis, c'est un trait d'esprit assez génial de Titien d'avoir choisi ce canon et cette forme musicale avec cette parole pour parler de l'excès dans l'usage du vin.
Alors, le Titien,
boire et reboire,
peintre immense, est invité donc par Alphonse à Ferrare. Il vient de Venise, n'est-ce pas ?
Absolument.
Hein, il est ami de Giorgione à cette période-là.
Oui, Giorgione est déjà décédé au moment où il arrive à Ferrare, mais il vient une première fois autour de 1514. Il va réaliser un premier tableau pour Alfonso d'Este et puis...
qui est un chef-d'œuvre aussi.
Qui est déjà un chef-d'œuvre, qui est le tribut de César, qui va se retrouver dans la chambre particulière d'Alfonso d'Este. Et puis, ce dernier va lui demander de travailler pour son Camerino, donc pour son grand œuvre de mécène, le Camerino.
Deux tableaux encore, donc...
Il fera trois tableaux au total et il va retoucher le tableau de Bellini, dont il va revoir l'arrière-plan, le paysage, pour l'harmoniser avec son propre tableau, les Andriens, donc il va se trouver juste à côté.
Alors, les Andriens, c'est ce tableau étrange. Alors, les Andriens, ce sont les habitants d'Andros.
Absolument. Donc, il est dit, donc, d'une certaine manière, qu'ils se livrent à l'ivresse, à la danse et au chant, mais qu'ils sont tous ivres, ils sont enivrés, dit Philostrate au début de son texte, en tout cas dans la version que j'ai utilisée. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que Titien, bien loin d'illustrer fidèlement le texte du rhéteur grec, va apporter toute une série d'innovations, d'écarts, d'anomalies, à partir desquels il va en quelque sorte construire son invention, son interprétation de cette histoire.
Une anomalie par rapport au canon habituel, la façon dont on représente, re-représente ou on illustre le texte de Philostrate, c'est
cela ? Alors, ce n'est pas un texte qui a été souvent illustré. Il y a quelques peintres du XVIe siècle qui l'ont, disons, interprété, notamment parmi Giannino dans un dessin, puis d'autres artistes plus tard dans le siècle, mais il est quasiment le premier. Philostrate, c'est un auteur d'origine latine mais qui écrivait en grec, qui vivait donc dans l'île de Lemnos, et il a fallu le traduire du grec au latin, puis du latin à l'italien, et il se trouve qu'Isabelle d'Este disposait d'une traduction faite par un humaniste de sa cour et qu'elle l'avait prêtée précisément à Alfonso d'Este pour élaborer ce tableau et quelques autres du Camerino. Alors, les anomalies, elles sont, je dirais, par rapport au texte proprement dit, elles sont peut-être de deux ordres. D'abord, il introduit des personnages tout à fait singuliers dans cette affaire, et vous les avez mentionnés, c'est cette figure sublime qui est en bas à droite, cette figure totalement nue et endormie, qui est particulièrement voluptueuse et qui s'offre véritablement à notre regard. Et l'autre personnage tout aussi singulier, mais qui contraste un peu, c'est ce puer mingens, comme on dirait en latin, c'est-à-dire cet enfant qui est en train d'uriner presque sur les jambes de la nymphe.
Qui paraît tellement extérieur à la situation qu'elle ne s'en aperçoit pas.
Absolument, et que lui ne semble pas la voir, ce qui est peut-être aussi tout à fait important.
Il y a des relations de regard très étranges, parce qu'il y a comme des groupes absents les uns aux autres.
Tout à fait, c'est là l'autre anomalie, à savoir qu'il y a de façon assez tranchée, d'un côté des figures, enfin d'un côté, il y a des figures habillées qui chantent, qui dansent, qui conversent, qui se regardent de façon amoureuse, et par ailleurs des figures nues qui semblent toutes attachées au vin, c'est-à-dire qu'ils le recueillent dans la rivière de vin, qu'ils le servent, qu'ils le boivent et qu'ils le cuvent dans un profond sommeil, comme cette nymphe et comme un autre personnage qui se trouve en haut à droite dans le tableau. Donc il y a véritablement comme un clivage entre ces deux groupes de figures. On peut se demander que signifie ce clivage, quel est son rapport avec le texte source, celui de Philostrate. Alors, la réponse, il est évident que les personnes habillées qui dansent et chantent sont les Andriens, mais qui sont ces figures nues qui les accompagnent, mais que les Andriens ne semblent pas voir, en tout cas qu'ils ne regardent pas.
Est-ce que ce serait le cortège du dieu ?
Alors ça, c'est une hypothèse qui a été proposée. Il y a même certains historiens de l'art qui ont dit, puisqu'il y a une des figures nues qui est en train de servir du vin, on a dit c'est Bacchus. Il y a un personnage plus âgé, ventripotent, qui boit goulûment directement à la bouteille son vin. On a dit que c'était Silène, mais ces figures ne présentent aucun des attributs décisifs qui permettraient d'identifier ces figures. Qui plus est, on voit à l'arrière-plan un bateau qui n'a pas encore abordé à l'île d'Andros. C'est le bateau de Bacchus dont parle Philostrate à la fin de son texte. Donc Bacchus et son compagnon ne sont pas encore être au milieu des Andriens.
Mais le vin coule déjà, parce qu'on voit qu'au milieu du tableau, il y a, dans le bas du tableau, il y a ce ruisseau
Absolument.
D'eau transformée en vin, au fond.
Comme le raconte Philostrate, c'est une rivière qui s'est métamorphosée en vin. Ça, c'est une des grandes propriétés de la tradition dionysiaque. Dionysos transforme l'eau en vin et fait bien d'autres miracles.
Jésus aussi.
Et Jésus, qui va certainement l'imiter, fera de même au moment des noces de Cana. Donc, pourquoi ces figures nues à côté des figures habillées? Ça, c'est une des questions à laquelle on va devoir répondre.
Alors, peut-être avant de répondre à cette question, je vous propose d'écouter à présent, et nous verrons pourquoi, un extrait de Platon qui écrit dans les Lois sur le thème du don du vin, don des dieux envoyés aux hommes pour soulager leurs peines, et de l'importance d'Apollon, Dionysos, et les muses, étant venues enseigner le rythme, l'harmonie, le chant et la danse.
Cette direction des sentiments de plaisir et de douleur qui constitue l'éducation se relâche et se corrompt en bien des points dans le cours de la vie. Heureusement, les dieux, prenant en pitié le genre humain condamné au travail, nous ont ménagé des repos dans la succession des fêtes instituées en leur honneur. Ils nous ont donné les muses, Apollon, leur chef, et Dionysos pour s'associer à nos fêtes, afin qu'avec l'aide des dieux, nous réparions pendant ces fêtes les manques de notre éducation. Voyons donc si ce que je proclame à présent est vrai et conforme à la nature, ou s'il en est autrement. Je dis qu'il n'est guère d'animal qui, lorsqu'il est jeune, puisse tenir son corps ou sa langue en repos et ne cherche toujours à remuer et à crier. Les uns sautent et bondissent, comme s'ils dansaient de plaisir et folâtraient. Les autres poussent toutes sortes de cris. Mais les animaux n'ont pas le sens de l'ordre, ni du désordre dans les mouvements, que nous appelons rythme et harmonie. Tandis que les dieux, qui nous ont été donnés pour associer à nos fêtes, nous ont donné aussi le sentiment du rythme et de l'harmonie avec celui du plaisir. C'est par ce sentiment qu'ils nous font mouvoir et dirigent nos cœurs, et nous font former la chaîne en chantant et en dansant, ce qu'ils ont appelé cœur, mot dérivé naturellement du mot joie. Platon, les Lois. 4e siècle avant Jésus-Christ.
Vous êtes toujours sur France Culture et nous écoutons à l'instant un texte de Platon. Ceci pour évoquer un fameux tableau de Titien, la Bacchanale des Andriens. Et je suis avec Philippe Morel pour l'interroger, pour être aidé dans notre exploration. Philippe Morel, ce texte de Platon qui évoque l'enthousiasme que le vin et les dieux peuvent nous permettre de recevoir et cette exaltation heureuse et joyeuse que cela met en nous. Ce texte de Platon était connu?
Absolument, Platon est...
À la Renaissance?
Tout à fait, Platon va être traduit à partir du... approximativement du milieu du XVe siècle par le célèbre philosophe néoplatonicien florentin qui est Marcile Ficin, et ceci à la demande de Cosme l'Ancien de Médicis. Et cette traduction va être très rapidement diffusée, commandée par Marcile Ficin lui-même. Il y a une véritable redécouverte de Platon au XVe siècle qui va marquer profondément toute la philosophie de la Renaissance et entrer pas simplement en confrontation mais également en rapport rapport, de, je dirais, dialectique avec la philosophie aristotélicienne qui prédominait avant et qui demeure, quoi qu'il en soit, très présente à l'horizon de la Renaissance.
On peut imaginer que cette exaltation du vin que fait Platon et de la présence des dieux nourrit le tableau qu'on est en train de regarder.
C'est en tout cas mon hypothèse. On peut dire que Titien, ou le conseiller qui était à ses côtés pour élaborer cette invention picturale, lui a suggéré de revisiter le texte de Philostrate à la lumière de ce que dit Platon dans les lois. Donc un des dialogues de Platon les plus tardifs, où, et c'est très rare dans les écrits de Platon, le philosophe grec parle de manière très positive du vin, en expliquant donc que c'est notamment un don des dieux, et tout particulièrement un don de Dionysos avec la musique, et avec le rythme, et avec l'harmonie.
Alors la musique est présente dans le tableau du Titien que nous regardons, puisqu'il y a un groupe de danseurs, 5 danseurs, un d'âge différent, un peu plus âgé, et 4 jeunes danseurs qui sont ensemble, dont l'un a un geste très particulier.
Absolument. Le danseur, qui est presque au centre de la composition, élève vers le ciel une carafe de vin, et tout en dansant, ce qui est tout à fait singulier quand on regarde avec un peu d'attention le détail, tout en dansant, il tient la carafe qui est quasiment pleine, entre le pouce et l'index, par le pied de la carafe. Donc c'est bien évidemment un exercice particulièrement délicat, ce qui montre à la fois sa dextérité, l'élégance du geste, qui montre bien tout. Et c'est ce que veut laisser comprendre Titien, c'est que cette jouissance du vin, ce rapport au vin, n'est pas sous le signe de l'ivresse. Donc les danseurs, les musiciens, toutes les figures habillées de cette composition ont un rapport en fait extrêmement mesuré au vin, extrêmement tempéré, et on peut dire d'une certaine façon que la musique et la danse dans ce tableau est conformément à ce que dit Platon dans son dialogue, et l'expression d'un usage tempéré du vin, qui s'oppose à un usage excessif qui est celui qui est précisément représenté par les figures nues qui se trouvent à la périphérie, notamment celles qui sont totalement endormies.
Ah, je comprends que la distinction que vous faisiez tout à l'heure, comme une énigme au fond dans le tableau, quelle est la différence entre ces personnages nus plus près du monde animal d'une certaine façon, et les personnages habillés plus près d'un monde civilisé, ou serait-ce là, eux n'ont pas le sens de la mesure, et ceux-là si?
Absolument. Et on peut dire que le tableau, la lecture du tableau se joue entre 2 détails décisifs, comme je l'annonçais un peu tout à l'heure. C'est d'un côté la partition musicale qui nous dit qui boit et ne reboit ne sait que boire soi. Autrement dit, il faut boire jusqu'à plus soif et jusqu'à s'enivrer radicalement. Et de l'autre côté, ce geste extrêmement gracieux et élégant de cette carafe de vin dont le danseur ne boit pas le contenu, mais en quelque sorte apprécie la couleur, apprécie la robe à la lumière.
Alors c'est justement la couleur, c'est un vin clairet, comme on dirait, du vin aujourd'hui. C'est un vin, c'est pas le vin profond, rubis, cœur de pigeon, c'est un vin clair.
C'est un vin léger. Oui. Autrement dit, un vin, selon les catégories médicales de l'époque, un vin froid qui s'oppose au vin chaud. C'est un vin froid qui correspond à un usage modéré du vin, contrairement au vin très lourd, au vin qualifié de chaud. Et le mot froid et chaud renvoie aux qualités et non pas à la température. Vin chaud qui entraîne nécessairement à l'ivresse.
Alors, c'est une ostension que fait le personnage qui tient cette carafe. La carafe est en plein cœur de l'image, elle est vraiment au cœur du tableau, et elle se détache nettement sur un fond blanc créé par un grand cumulus au milieu d'un ciel bleu, et c'est le pivot de toute la composition.
La carafe, c'est la présence symbolique de Dionysos au milieu de l'image, comme don du vin, mais en même temps don de la danse et du chant qui se trouve juste en dessous, interprété par les habitants d'Andros.
C'est une élévation très chrétienne aussi.
Oui, mais ça
c'est une surinterprétation culturelle.
Non, le rapport au niveau du vin entre Bacchus et Dionysos est très présent à l'Antiquité tardive. Il l'est également d'une certaine façon à la Renaissance, mais je ne crois pas que ce soit la question développée dans le tableau de Titien. Mais c'est une question fondamentale et fascinante que j'ai essayé d'aborder dans une partie de mon livre.
C'est la fin du livre qui est consacré plus
Absolument.
Particulièrement à cette question de...
Au christianisme dionysiaque.
Exactement. Mais donc là, on est plutôt sur une question qui est à la fois la tempérance et l'encouragement au plaisir. C'est-à-dire, on n'est pas abruti par le vin, mais on est émoustillé, stimulé.
Absolument.
Agile.
Et c'est pour ça qu'on peut considérer que ce tableau, mais on pourrait faire le même type d'observation face aux autres tableaux du Camerino, correspond à une approche de la vie qu'on peut qualifier d'épicurienne, c'est-à-dire un usage modéré, tempéré des plaisirs. Mais quoi qu'il en soit, une véritable réhabilitation des plaisirs, alors que toute la tradition chrétienne qui est en amont et qui prédomine au Moyen-Âge tendait en quelque sorte à les disqualifier.
Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser sur des détails que je n'arrive pas à saisir la signification. Par exemple, dans le grand arbre à gauche du tableau, il y a une vigne qui monte, ce qui est très rare, ce qui est quasiment unique, et une grappe pend de cet arbre immense. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça, c'est une allusion littéraire, une sorte de lieu commun littéraire qu'on trouve déjà dans la poésie antique, notamment chez Catulle, qui réapparaît à la Renaissance, et notamment dans des poèmes de l'Arioste, donc un poète très proche d'Alphonse d'Este, comme je l'ai expliqué. La vigne qui s'enroule autour de l'orme symbolise la fidélité ou la foi conjugale. Donc l'amour au sein du mariage.
Je me souviens avoir vu des emblèmes de la Renaissance où on tient Absolument. Une grappe par sa branche.
Ça, c'est autre chose.
C'est autre chose.
Oui, c'est un usage modéré des plaisirs. Là, c'est dans la peinture du Nord qu'on trouve ça.
Je pensais que c'était lié à la bonne virginité.
Oui, absolument.
Ou à la bonne perte de la virginité.
Oui. Comment bien perdre sa virginité, c'est-à-dire au sein du mariage.
C'est très bon. C'est autre chose. Ça nous éloigne du sujet. Pardon.
Mais donc là, c'est une allusion de caractère un peu matrimonial qui est peut-être un clin d'œil discret à Lucrezia Borgia, qui venait de disparaître au moment de l'exécution.
Parce que il venait de perdre son épouse qui était morte en couche, n'est-ce pas,
d'une
septicémie, je crois.
Sans doute, mais après avoir été mise enceinte 10 fois par son mari et lui avoir donné 6 enfants.
Ce qui veut dire qu'elle était vraiment aimée et désirée.
Absolument, voilà. Et tous les textes de l'époque le confirment.
Alors, autre détail, il y a une jeune femme qui est très intéressante parce qu'elle est alanguie, il y a un homme pas loin d'elle qui semble lui caresser la cheville, elle est en conversation avec une amie et elle a dans son corsage quelques fleurs, et pas seulement d'ailleurs.
Oui. Des violettes, un petit bouquet de violettes, mais il faut regarder le tableau avec beaucoup d'attention, et un petit billet où, de façon quasi minuscule, est inscrit le nom de l'artiste. Alors on peut rappeler à cette occasion qu'une légende est née autour de ce détail où on a estimé que cette figure tout à fait avenante qui laisse découvrir en partie sa belle poitrine serait un portrait de la maîtresse de Titien qui s'appelait Violante, et les violettes étant une allusion donc discrète à son nom, et ça serait un portrait caché en quelque sorte de cette dernière.
Alors peut-être que, puisqu'il y a un grand auteur français qui a brodé sur cette question, je vous propose d'écouter à ce moment-là un regardeur de Titien. Il s'agit d'Alexandre Dumas, c'est un petit peu inattendu, mais c'est très intéressant, qui en 1844 consacre un livre à ce peintre admiré de la Renaissance, de Titien. Écoutons-le à son tour nous décrire cette bacchanale des Andriens.
Le second tableau se composait également d'un grand nombre de suivants de Bacchus. Les uns couchés, les autres assis sur les bords d'un ruisseau de vin du plus beau vermeil, ruisseau qui prenait sa source au sein d'une colline au sommet de laquelle un joyeux satyre prenait un grand tas de raisins et alimentait sans cesse ce torrent de rubis qui en découlait. Rien de plus gracieux, de plus riant, de plus pur que ces jeunes échansons offrant dans des coupes d'opale le nectar de la treille à leur fraîche compagne. Rien de plus frappant de vérité et d'énergie que ces buveurs toujours altérés se vautrant dans des flots de Falerne. Rien de plus voluptueux que ces jeunes femmes échevelées tourbillonnant dans des danses folles ou tombant épuisées sur le gazon, les tresses ondées en spirale d'or, les yeux noyés d'ivresse et d'amour. On dit que dans une de ces prêtresses de la luxure antique, l'artiste a peint sa Violante, une femme qu'il a beaucoup aimée, et qu'on peut la reconnaître à un petit bouquet de violettes qui s'épanouissent sur son sein et à un petit carton passé dans sa ceinture, sur lequel est écrit en lettres microscopiques le nom de Titien. « Enfin, dans le dernier chef-d'œuvre destiné à orner le précieux boudoir du duc d'Alphonse, notre peintre laissa libre cours à sa fantaisie et créa une scène ravissante, un de ces délicieux poèmes tout empreint du génie de la Grèce qu'Anacréon eut envié. Le tableau représentait un gazon d'un vert émeraude coupé par de larges bandes de fleurs des couleurs les plus vivaces et les plus éclatantes. Sur cette herbe, sur ces fleurs, le peintre vénitien lâcha un essaim d'amour, sa volière d'oiseaux gazouilleurs, sa pléiade de petits enfants joufflus et mutins qui ont servi de modèle aux bambins de l'Albane et aux séraphins de Zampieri. Nous n'essaierons pas de peindre le ravissement d'Alphonse d'Este quand il se vit, grâce à Titien, possesseur de ces merveilleuses peintures. Alexandre Dumas, Titien, 1844.
Il y a des généalogies de grands artistes, il y a des généalogies de grands regardeurs, Alexandre Dumas, Philippe Morel. Nous continuons avec vous, Philippe, pour explorer encore un peu plus profondément cet extraordinaire tableau, la Bacchanale des Andriens, du Titien. Et je voulais avoir votre éclairage sur une figure qui apparaît au-dessus de ces personnages en train de virevolter et qui est endormie sur en haut d'une colline, seule, et qui semble tenir dans une main une grappe de raisin.
Absolument, c'est un dieu fleuve qui représente donc le dieu de la rivière transformée en rivière de vin et qui est donc naturellement ivre. Et le geste qu'il présente, c'est-à-dire presser du raisin directement dans la main, est un geste tout à fait typique à la Renaissance et tout à fait identifiable d'excès dans l'usage du vin. On voit à la fin du XVIe siècle ou au XVIIe siècle beaucoup de tableaux où les personnages, que ce soit Bacchus mais aussi bien des soldats dans des tavernes, pressent directement le raisin dans la bouche pour en boire de façon tout à fait goulue le nectar. Et...
On l'a chez Caravage avec la figure de Bacchus également.
Le geste proprement dit, on le voit surtout chez... Il ne presse pas dans le cas
c'est
de
vrai,
Caravage.
Mais
chez des peintres caravagesques, oui. Et c'est un geste qu'on voit déjà dans la céramique grecque, et là ce sont les satyres ou Silène qui montrent cette façon totalement débordante et excessive de consommer le liquide du raisin.
Donc ce tableau est entièrement fait sur l'excès et la mesure, c'est ce que vous nous suggérez ?
Absolument, absolument. C'est une sorte d'opposition, de contraste entre l'excès et la mesure, cette façon très élégante de regarder la robe du vin et ce que dit le texte musical, autrement dit boire et reboire, jusqu'à se retrouver ivre mort, comme le dieu fleuve dont on vient de parler, ou encore comme cette magnifique figure entièrement nue que s'y trouve en bas à droite.
Alors cette figure entièrement nue, on a vu une autre figure, pas tout à fait nue, mais très entreprise par Priap dans le tableau dont nous avons parlé au début de l'émission, par le tableau de Bellini, et cette fois presque dans la même position, elle est nue et elle semble être dehors, dedans. Quel est ce personnage ?
Absolument. On peut déjà dire que cette figure entre en dialogue avec la figure de Bellini, qu'elle reproduit, vu qu'elle est. Les deux figures sont toutes les deux nues, en effet, et dans l'angle inférieur droit de chaque composition, les deux tableaux étaient l'un à côté de l'autre. Dans le Camerino. Alors ce personnage, il a fait couler beaucoup d'encre et il a même un peu donné lieu à quelques confusions dans la mesure où dans sa position, en composition et dans son apparence entièrement nue et endormie, il fait penser à une figure extrêmement fréquente dans l'art antique qui est Ariane endormie, telle qu'on la voit dans les sarcophages dionysiaques où Dionysos et son thias, c'est-à-dire ses compagnons, la découvrent, la réveillent et c'est le prélude bien évidemment au mariage entre la princesse crétoise et le dieu du vin. Or, ici, il est tout à fait difficile d'imaginer qu'il s'agisse d'Ariane pour plusieurs raisons. D'abord, on n'a jamais vu une Ariane aussi ivre que celle-ci, car il y a un certain nombre de détails laissent imaginer qu'elle est ivre. Et surtout, Ariane n'a rien à faire dans l'île d'Andros, car l'île d'Ariane, Senaxos, c'est là où, abandonnée par Thésée, elle a été découverte par Dionysos.
Ce qui est le cas du tableau, ce qui est le sujet du tableau voisin du Titien.
Absolument, du tableau voisin de Titien qui se trouvait à gauche de celui-ci dans le Camerino. Et qui plus est, Bacchus n'étant encore absent dans cette image, il est improbable de reconnaître Ariane ici. Il s'agit plus probablement d'une nymphe qui se trouve d'ailleurs juste à côté de la rivière de Vin, une nymphe de cette rivière qui est donc naturellement enivrée. Et quelques détails plaident pour cette idée. Elle tient une coupe juste contre son flanc gauche. Elle repose sur un récipient qui est naturellement un récipient à vin et a la tête totalement en arrière, ce qui laisse entendre qu'elle est véritablement ivre et profondément endormie.
Est-ce que cette tête en arrière est comme ménadisée ou pas ?
Elle serait ménadisée si elle était vraiment en train de se mouvoir et de danser.
Alors ménadisée, peut-être un mot sur l'explication du mot ?
Alors la ménade, on peut peut-être parler un instant des ménades et des bacchantes. Oui. Les ménades sont censées être les compagnes de Dionysos dans la mythologie, qui l'ont accompagné dans ses longs périples et qui se sont livrées à quelques gestes particulièrement dramatiques, c'est-à-dire la mise à mort de Panthée d'une part et d'Orphée d'autre part. Les bacchantes sont plutôt les prêtresses ou les suivantes de Bacchus à travers les siècles. Et dans la céramique grecque et comme dans les sarcophages romains, la figure de la ménade est tout à fait fréquente. On la voit généralement dansant avec des satyres, avec des positions extrêmement excessives, c'est-à-dire à la fois un mouvement vers l'avant et la chevelure qui flotte au vent, mais surtout la tête est souvent en arrière avec une suggestion de frénésie qui est tout à fait caractéristique de la ménade qui est possédée par le dieu.
Est-ce que vous avez l'impression qu'on a exploré quasiment tous les détails du tableau ou est-ce qu'il ne faudrait pas dire un petit mot d'une pintade bizarrement perchée dans un, je ne sais pas ce que c'est, ce n'est pas un orme cette fois-ci, un frêne peut-être.
Oui, c'est sans doute un frêne. Une pintade, c'est un peu comme le détail du billet avec le nom de Titien ou de la vigne qui se trouve à gauche dans l'autre arbre. C'est un détail, je dirais, adressé au spectateur averti. Le spectateur de ce tableau, ce n'est pas nous au départ, c'est véritablement le prince, autrement dit Alphonse d'Est. Et cette pintade, à travers des détours que je n'aborderai pas, des détours érudits et philologiques, est une allusion à travers Pausanias, ou Strabon plus précisément, à travers Strabon, est une allusion à la plaine du Pô, c'est-à-dire au territoire du duché de Ferrare. Donc c'est comme la vigne attachée à l'orme, une allusion plus personnelle pour le prince commanditaire.
Alors Titien est un immense artiste, ses coloris sont éblouissants, la composition est d'une qualité merveilleuse. Cette érudition dont vous faites preuve et dont il fit preuve en peignant tout cela, cette érudition est-elle la sienne ?
On peut imaginer Titien, donc était vénitien, il vivait essentiellement à Venise, mais il a beaucoup voyagé et il venait très souvent, comme le rappelle Alexandre Dumas, très souvent à Ferrare, et il avait l'occasion à Ferrare de discuter avec les humanistes de la cour d'Alphonse d'Est, et notamment Mario Equicola, l'Arioste et quelques autres avec lesquels il pouvait éventuellement s'entretenir et définir certains détails pour préciser en quelque sorte le contenu de son invention.
Donc, malgré tout érudit, on dit qu'il ne parlait pas latin.
Non, je ne dirais pas qu'il est érudit, contrairement à d'autres artistes de son époque, mais à l'écoute des conseils, en tout cas dans cette circonstance, de l'entourage d'humaniste qui était celui d'Alfonso d'Este.
Un obéissant au programme
Obéissant dans certains détails, mais l'interprétant à sa manière tout à fait magistrale, comme le rappelle si bien Alexandre Dumas. Et il faut peut-être insister sur le fait que ce tableau n'est pas le seul, mais il y en a deux autres qui sont tout aussi fascinants.
Donc il y a la rencontre entre Bacchus et Ariane qui se trouve maintenant à Londres, à la National Gallery de Londres, qui est admirable. Et puis Les Amours, qui est où d'ailleurs ?
Les Amours au Prado, comme les Andriens. Voilà. Les Amours. Alors ça, ce sont deux tableaux. Le premier est en fait le premier dans la distribution telle qu'elle a été restituée, parce que ces tableaux, il faut peut-être le dire, ont été dispersés dès 1598. On peut dire qu'ils ont été volés, en tout cas dérobés, par un cardinal, le neveu du pape Clément VIII, le cardinal Pietro Aldobrandini. Donc ils ont quitté Ferrare à la fin du XVIe siècle. Et le travail des historiens de l'art au XXe siècle a été de reconstituer en quelque sorte l'ordre de distribution de ces tableaux dans le Camerino. On n'avait pas de documents suffisamment précis, tout au plus un état des lieux en 1598. Et il apparaît que le Bacchus et Ariane est le premier tableau du cycle en quelque sorte. Et ce tableau correspond d'une certaine façon à la rencontre de Bacchus Ariane, c'est-à-dire au coup de foudre, le départ en quelque sorte d'une histoire qui va connaître plusieurs étapes, qui n'est pas que l'histoire de Bacchus et Ariane, mais qui se rapporte à la relation entre le vin, l'amour, la musique et la fécondité.
En quoi ce tableau... j'ai deux questions à vous poser. D'abord, ça m'a surpris au fond, par certains aspects, que le Titien puisse venir si facilement à Ferrare alors que la lutte politique était âpre entre Ferrare et Venise.
Absolument, il y a eu des guerres terribles, notamment à l'époque du père d'Alphonse d'Este entre Venise et Ferrare, mais il n'en demeure pas moins que les artistes, et pas simplement les peintres, les acteurs notamment, circulaient beaucoup entre Venise et Ferrare.
Ce tableau que nous avons regardé a une actualité pour nous aujourd'hui. Je veux dire, est-ce que c'est pas seulement pour sa morale, mais qu'est-ce que ça peut dire à des artistes d'aujourd'hui, un tableau semblable ?
La question est
difficile.
Est difficile, mais
un tableau incroyablement conceptuel.
C'est un tableau très très conceptuel, mais il n'en demeure pas moins que la composition, la manière dont l'artiste agence les figures, utilise ses couleurs, enfin tout ceci dépasse tout l'invention littéraire qui se trouve en amont et donne tout son caractère sublime à cette image. S'il n'y avait pas eu Titien, la même invention littéraire aurait pu donner quelque chose d'une totale fadeur.
Philippe Morel, merci infiniment pour ces commentaires magnifiques qui nous ont permis d'explorer ce tableau de Titien, la Bacchanale des Andriens, qui est un des chefs-d'œuvre absolus qui se trouve aujourd'hui au musée du Prado. Merci Philippe Morel.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons observé une peinture réalisée vers 1523 par le Titien et conservée au musée du Prado à Madrid. Elle s'appelle la Bacchanale des Andriens. Pour en parler, nous étions en compagnie d'un grand regardeur, Philippe Morel. Philippe Morel est l'auteur d'un très beau livre intitulé « Renaissance dionysiaque, inspiration bachique, imaginaire du vin et de la vigne dans l'art européen ». Et à cette occasion-là, nous avons fait, au fond, nous avons promu la tempérance. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques évoquées pendant l'émission sur le site franceculture.fr, attaché d'émission et site internet Sylvia Favre. Merci Sylvia. Lecture des textes Quentin Bayot, à la technique Jean-Louis Deloncle, réalisation Franklinin, merci Franck. Les Regardeurs, une émission de Jean Deloisy, préparée merveilleusement cette fois-ci par Sandra Adam.
Come for me, babe.
to go with baby. Come to go.